La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Hervé Gattegnaud qui évoque ses souvenirs marseillais de l'Olympique de Marseille. Avec l'accent.
On verra ce soir.
Franz-Olivier Gisbert, c'est à vous. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous comme chaque jeudi, Franz. Vous faites le pont, vous, en général ?
Non. Bah non, je n'ai jamais fait, parce que c'est journaliste, de toute façon, il n'y a pas d'horaire.
Et quand vous dirigez.
Les 35 heures, c'est.
Quand vous dirigez le Figaro, le Nouvel Obs, vous faisiez le pont ?
Non. Non, mais attendez, mais j'aime bien l'idée qu'il y ait des ponts. Moi, ça ne m'a jamais dérangé. Et vous savez, journaliste, ça consiste souvent, d'ailleurs, comme d'autres métiers, médecin et tout ce que vous voulez, ça consiste à travailler pendant que les autres sont en congé. Je veux dire, les Noëls, je les ai souvent passés au journal. Hein.
Faire le pont et être sur le pont, en fait, les deux expressions conviennent à ce que vous venez de dire.
Oui, et moi, j'aime bien l'idée des ponts. Alors, simplement. Il y a des ponts qui sont moins marrants que d'autres. C'est quand il y a des foules énormes dans les gares. On est un peu triste pour tous ces gens, d'ailleurs, qui se plaignent. Mais bon, ça, c'est...
Tout à l'heure dans la matinale.
C'est le problème de la France, attention. Hein, parce qu'on l'a dit l'année dernière... la semaine dernière, pardon. Avec l'Institut Rex et Code qui a fait cette étude qui montre que les Français sont ceux qui... Les Européens qui travaillent le moins. Juste
devant
les Finlandais.
C'est ce que vous nous avez dit la semaine dernière.
Oui. Et vous savez pourquoi ? C'est notamment à cause des congés, parce que les économistes marxistes, LFistes, etc., qui vous expliquent que les Français travaillent plus que les autres, etc., ils oublient toujours dans les calculs, évidemment, de compter tous ces congés que nous avons.
Alors, je vous ai posé la question parce que je me suis fait cette réflexion en début de semaine, que la campagne des Européennes s'enlisait dans les sables mouvants, d'abord des vacances de Pâques, suivies des ponts qui s'enchaînent. On vient de le voir, on vient de l'entendre, les Jeux Olympiques, l'arrivée de la flamme, les Français ont d'autres préoccupations. Vous saupoudrez tout cela d'un peu d'éclaircies et de printemps qui arrivent. Et tout ça, c'est pas bon pour la politique. Est-ce que vous avez le sentiment, comme moi, si on ajoute aussi le télétravail, qui permet aussi de prendre un peu de distance avec le quotidien, même si on bosse chez soi, vous n'avez pas le sentiment que c'est pas bon pour cette campagne des Européennes ?
Bah, tout ça dépendra du taux de participation. Hein. Vous vous souvenez qu'en 2019, vous vous souvenez peut-être, c'est surtout les spécialistes qui s'en souviennent, le taux de participation était de plus de 50%. C'est une grande victoire. Hein. C'était 7 points de plus qu'à l'élection précédente. Je ne suis pas sûr qu'on réussisse à faire aussi bien à cause justement de cette accumulation de ponts. Et le taux de participation, ça ne devrait pas vous échapper. Ça fait souvent changer le résultat des élections. Si en 2021, par exemple, aux élections municipales, nous avons eu autant d'escrologistes qui... 2020 d'ailleurs, plutôt.
2020.
Au municipal, si des escrologistes ont gagné beaucoup de villes, eh ben c'est parce que les plus anciens, les seniors ou les vieux, comme vous voulez, eh ben ils ont moins été votés à cause du Covid. Et ce sont les jeunes. Les jeunes, ils votent plutôt, ou ils votent RN d'ailleurs, si il y a fort taux d'abstention chez les jeunes, c'est pas très bon pour RN. C'est vrai que Jordan Bardella se balade très haut aujourd'hui, mais peut-être que si les jeunes décident de bouder les urnes, ça sera meilleur pour la liste de Madame Hayet.
Vous avez la mémoire des élections européennes de 2019. Vous avez rappelé un taux de participation supérieur à 50%. Je me fie à votre mémoire. On avait l'explication de cette bonne participation en 2019 aux élections européennes, parce que plus de 50% aux élections européennes, c'est une bonne participation.
Oui, mais là, vous savez que...
C'était l'année des Gilets jaunes, c'était quoi ?
Oui, mais je pense quand même que cette participation était due, vous savez, justement à ce que vous dites. C'est-à-dire, c'est l'organisation des ponts, l'organisation des vacances, etc. On sait très bien que là, bon, ça tombe pas bien. C'est pas très bien quand on regarde le calendrier. Et vous savez bien que l'Ascension, par exemple, elle est fériée, mais elle sera pas... Elle redeviendra fériée quand ? Je ne sais pas trop. Il faudra attendre très longtemps. Il paraît que c'est 30 ans. Je sais pas quoi. Ça va mettre du temps. Donc, quand vous avez toute cette espèce d'accumulation, les gens ont la tête ailleurs. Ils suivent l'élection, mais...
Est-ce qu'il n'y a pas une prime ? Attendez, est-ce qu'il n'y a pas une prime à ceux qui sont partis les premiers ? Je pense au Rassemblement National. LFI aussi était prêt assez tôt. LR était prêt assez tôt.
Non,
mais
non,
la campagne Renaissance a démarré très tardivement.
Ça dépend des catégories qui vont voter. On sait. C'est les jeunes, ils votent plutôt RN ou LFI. Les plus anciens, ils votent Macron. Ou peut-être qu'ils voteront aussi Glucksmann, même s'il a également des jeunes. Donc, tout ça fait que, quand on regarde les sondages, qui sont des photographies, c'est pas joué. C'est pas joué parce que beaucoup de gens qui répondent aux sondages, eh ben, ils vont pas forcément les voter. Mais c'est très intéressant, parce que ces élections, de toute façon, ont quelque chose d'assez passionnant, franchement. Ça fait longtemps que j'en vois, ça n'a jamais grand intérêt ces élections. Il sort en général des personnages qui font des gros scores et puis après ça fait pchit, on n'en parle plus jamais. Je pense notamment justement aux escrologistes, autrefois, vous vous souvenez, avec Cohn-Bendit.
Bon, mais là c'est intéressant parce que l'enjeu européen, c'est quand moment quelque chose d'important.
Il y a l'enjeu européen, mais il y a autre chose aussi. C'est, il y a une page qui va bientôt être tournée, tous les Français le savent, c'est la fin du macronisme. Enfin,
c'est dans 3 ans, il reste 3 ans.
Vous savez, les choses étant ce qu'elles sont, c'est plutôt 2 ans et demi. Parce que, il y a 6 mois, de toute façon, avant la fin, on ne parle plus de grand... Enfin, c'est fini, quoi. Donc, ce qui est intéressant, justement, c'est l'arrivée d'une nouvelle génération. Moi, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Bon, il y a ceux qu'on peut appeler les redoublants, hein. Par exemple, Raphaël Glucksmann, le bobo, la belle gueule, qui fait un beau parcours, d'ailleurs. Il a pris de l'assurance... Puis il est très habile. Hein, il essaie de rassembler de tous les côtés, y compris de ramasser les ex-LFistes. Bon. Vous avez François-Xavier Bellamy, le bon élève. Enfin, prof de philo. Hein, il n'est pas élève, il est prof de philo. Enfin, il a un métier, lui. Ce n'est pas le cas de tous. Et qui apprend à, comment dire, à s'encanailler un peu. Il est très différent. On a dit la semaine dernière qu'il avait fait beaucoup de progrès. Je pense que, d'abord parce qu'il connaît ses dossiers. Et s'il y avait une justice, il devrait faire mieux que la dernière fois.
Parce que là, il est crédité de 7% dans les sondages.
Oui,
enfin, c'est deux fois moins.
Vous avez parfois
c'est deux
plus.
Fois moins que, que Glucksmann.
Oui, bien sûr. Mais enfin, on va voir. Hein, justement, on attend un peu, hein, parce que je veux dire, on peut avoir des grosses surprises comme d'habitude.
C'est dans un mois.
À cause
exactement.
Du taux de participation, je le répète, c'est pas les sondages. Ils sont justes, mais simplement les gens qui disent qu'ils vont voter, qui vont voter pour un tel, s'ils vont pas voter, eh ben évidemment, ça fausse les choses après. Et puis vous avez Jordan Bardella. Alors lui, c'est la Rolls Royce, hein, un mélange de Rolls Royce et d'insubmersible. Bon, faut pas en dire du bien parce que on est mal vu, mais il se débrouille bien.
Assumez.
Ah non, mais il faut appeler un chat un chat. Il est bon.
Soit vous avez envie d'en dire du bien.
Ah bah non, mais c'est pas ça.
Mais je vais pas semblant.
Non, j'appelle un chat, Jordan Bardella. Il est bon. Bah, j'ai pas ses idées, évidemment. Je ne suis pas poutinolâtre. Enfin, le programme économique du RN me fait peur, comme il fait peur à beaucoup de gens. Mais enfin, on peut pas lui renier. Enfin, on peut pas dire qu'il a pas de talent, quoi. Il a même beaucoup de talent. Manon Aubry aussi. Elle a du cran du chien. Elle n'a jamais l'affaire. Même si, avec Rima Hassan, ça doit être un peu dur, hein. Parce que, bon, je pense qu'elle elle en bave.
Ça, c'est les redoublants. C'est ceux
voilà.
qui retournent.
Et il y a les nouveaux, justement.
Les nouveaux,
c'est très intéressant.
Je vous interromps 30 secondes. Les redoublants, c'est intéressant. Parce que longtemps, le scrutin européen, c'est tout juste si on connaissait les têtes de liste. Elles changeaient à chaque scrutin. On se souvient de Simone Veil. On se souvient d'une liste obscure de Bernard Tapie pour torpiller celle du Parti Socialiste. Et là, on a, comme vous les appelez, les redoublants, mais c'est plutôt les persistants, ceux qui approfondissent, parce que Glucksmann y retourne, François-Xavier Bellamy y retourne, c'est des gens qui connaissent les dossiers européens, et même Manon Aubry.
Ce sont des spécialistes.
On peut
absolument.
Les créditer
oui,
d'un
oui,
intérêt
oui,
européen.
Oui, bien sûr. Et puis il participe. Et puis il y a Bardella qui fait une carrière nationale carrément au Parlement européen, ce qui est assez rare, quoi. Bon. Et donc parmi les nouveaux, il y a évidemment Valérie Hayet. C'est très intéressant comme cas. Parce que bon, elle n'a pas été bonne dans ce dernier débat avec Bardella, elle a même été complètement écrasée, et pourtant elle a du talent. Elle a quelque chose, c'est indéniable. C'est rare, vous savez, les macronistes qui ont du talent comme ça, et je pense que c'est quelqu'un dont on va parler dans les années qui viennent.
Elle n'a pas été mauvaise dans le débat,
Elle a fait ce qu'il ne faut pas faire dans les débats,
excellent.
Elle avait appris des phrases par cœur, et on voit bien que Bardella, qui était beaucoup plus professionnel, lui, il improvise. Et ceux qui gagnent dans les débats sont toujours ceux qui improvisent. Elle sortait sa petite phrase, c'était à peu près toujours la même. On voit que tout ça avait été préparé par des communicants. Bon, mais je pense qu'elle a quelque chose. Moi,
qu'est-ce qu'elle a alors ? Si vous estimez qu'elle n'a pas été bonne en débat et que vous estimez qu'elle va percer ou qu'elle fera mieux, quelles sont les qualités que vous soupçonnez chez elle ? Vous en avez rencontré beaucoup.
Non, je ne soupçonne pas. Je trouve qu'elle les a. Elle les a. C'est-à-dire, d'abord elle a une forme de. Elle a du chien, c'est-à-dire de l'agressivité.
Oui.
Et en politique, c'est jamais mauvais. C'est C'est-à-dire, elle a de la volonté, elle ne lâche pas le truc, même quand elle est un peu dans les cordes, elle s'en fout, elle remet ça. Et je pense que, vous savez, la politique, ça s'apprend. Ça s'apprend. Bon, elle est sortante, elle a fait donc déjà un mandat, mais elle ne connaissait pas le métier de tête de liste, etc. Elle va l'apprendre très vite. Et moi, je pense que c'est quelqu'un. Vous voyez, Bardella, je dis toujours que Gabriel Attal, c'est le meilleur de la Macronie. Hein, c'est de loin le meilleur.
Mais il fait ça depuis qu'il a 12 ans et demi.
Et ben, je pense qu'il a une concurrente. Je pense qu'elle, elle peut peut-être jouer quelque chose. Oui. Ouais, vous savez, c'est important la volonté. C'est très important. Bon. Elle a quelque chose.
Donc Valérie Ayé, les petits nouveaux, donc.
Oui, absolument. Et puis alors, Rima Hassan, les petits nouveaux. Parce qu'elle, elle dégage.
Météorite.
Ah non,
mais
attends. Météorite. Oui, mais enfin, elle dégage. Là, il faut reconnaître, d'ailleurs, à Mélenchon, qui choisit en général assez bien. Manon Aubry, c'est un très bon choix. Ça avait étonné à l'époque. C'est une, enfin, comment dire, personne ne la connaissait, ni d'Ève ni d'Adam. Et elle s'est très bien débrouillée. Et, bon, enfin, avec ses idées qui sont les siennes et qui ne sont pas les miennes. Mais enfin, il faut reconnaître ça aussi. On a plomb un chat, hein, comme pour Bardella. On ne peut pas dire qu'elle n'a pas de talent. Et Rima Hassan, elle, vous pensez qu'elle a 32 ans. Vous me direz, Bardella, elle a 28 ans. Hein, mais elle a 32 ans et on peut dire qu'elle prend le chemin pour devenir une star. Hein,
comment expliquer ? Parce que les autres, Bardella a fait des classes politiques tout à fait précises, Glucksmann aussi, Bellamy aussi. En plus, Bellamy était prof, donc ça peut aider sur la maîtrise de l'expression orale. Enfin, tous ont un apprentissage politique au long cours qu'on a pu observer. Rima Hassan, c'est quasiment une génération spontanée. Enfin, ouais, on ne sait rien de son passé d'apprentissage politique. Peut-être que vous allez nous éclairer, d'ailleurs.
Bon, elle affole les jeunes, hein. Ça, c'est clair qu'elle sait faire. Hein. Là-dessus, je ne peux pas empêcher, quand je vois ce qui se passe à Sciences Po Paris et ailleurs, de faire cette citation. J'en fais pas souvent. Hein. Bon, je ne sais pas être cuistre, mais c'est tellement beau, ça. Quelle belle chose, la jeunesse. Quel crime de la laisser gâché par les jeunes. Ça, c'était Georges Bernard Shaw. Et on a ce sentiment, bon, avec tous ces jeunes escrologistes, ces jeunes éléphistes qui sont sous son emprise, hein, Rima Hassan, et puis qui revêtent des keffiyehs en agitant des drapeaux palestiniens. Tout le monde est pour la Palestine, d'ailleurs, moi le premier, hein. Je suis pour un État palestinien, j'ai toujours été. Mais il y a une chose que je ne comprends pas, David, et je veux être un peu godichon, mais les jeunes n'en avaient pas fait autant, non ? Si ma mémoire est bonne, pour les jeunes femmes iraniennes persécutées ou massacrées, d'ailleurs, par les mollahs. Il y a beaucoup d'autres drames de ce genre, d'ailleurs, dans le monde, qui n'ont pas du tout intéressé les jeunes, qui s'en foutaient littéralement. Les Arméniens, les Arméniens chrétiens menacés d'éradication par les Azéro-Turcs, les Kurdes musulmans aussi, du Rojava en Syrie. C'est des musulmans, hein. Bon, tout le monde s'en fout. Et Erdogan, il aimerait les faire disparaître de la surface de la Terre. D'ailleurs, il les bombarde régulièrement. Pas un mot, jamais, rien.
Mais vous savez que l'extrême gauche française a labellisé le conflit israélo-palestinien comme étant un conflit emblématique des luttes et de la convergence des luttes. Et c'est pour ça que l'extrême gauche a préempté ce conflit pour en faire un étendard.
Oui, à cause des musulmans en France. Mais alors, à ce moment-là, il y a d'autres combats où des musulmans dans le monde sont concernés.
Oui, c'est-à-dire,
je parlais des Kurdes, ils sont musulmans. Bah, attendez, c'est tout près de chez nous aussi, les Kurdes. Ouais. Et puis, mais attendez, les Ouïghours, je reconnais que c'est un peu loin, les Ouïghours musulmans qui sont persécutés en Chine. Mais enfin, bon, voilà. Moi, j'ai ma petite réponse. Hein. J'oubliais, que suis-je bête. J'oubliais. Bah, les Mollahs, bah, ils ne sont pas juifs. Hein. Les Turcs non plus. Et voilà, c'est ça la vraie histoire. Et c'est pour ça qu'on les laisse tranquilles. Je crois que c'est vraiment le sujet.
Vous sous-entendez que l'extrême gauche a choisi la cause palestinienne parce qu'elle leur permet, ou lui permet, de critiquer Israël ou de laisser de s'exprimer un penchant anti-sioniste qui déguise de l'antisémite.
Ah bah je vais me gêner. Évidemment. Bah, c'est tellement évident, mais ça crève les yeux. Ça crève les yeux. Les jeunes et ceux qui les manipulent, ceux qui organisent les manifs, se fichent du reste. C'est la seule chose. Et je trouve ça absolument passionnant.
Vous pensez que les jeunes qui manifestent à Sciences Po ont choisi la cause palestinienne parce qu'ils peuvent exprimer leur antisémitisme ?
Ah bah oui, bien sûr.
Vous êtes sûr de ça ?
Il y a une belle phrase de... Une grande partie, bien sûr. Il y a une belle phrase de Bernanos, Georges Bernanos, qui avait donné un peu dans l'antisémitisme dans ses premiers écrits. Vous vous souvenez ? La grande peur des bien-pensants, etc. Bon, enfin, c'est un écrivain formidable. Et puis, il s'est retourné, il a changé d'avis. Et bon, c'est devenu d'ailleurs une grande figure, même, à la fin, une grande figure pour la gauche, pour tout le monde. Et il disait, vous vous souvenez, à propos des antisionistes qui sont très puissants aujourd'hui en France, il disait qu'Hitler avait déshonoré l'antisémitisme. C'est pour ça qu'il y a une seule solution pour tous ces gens-là, c'est effectivement l'antisionisme qu'on peut appeler, moi j'ai essayé de trouver ce mot, mais ça n'a pas eu beaucoup de succès quand j'ai commencé à le lancer, vous savez, l'antisémitosionisme, parce qu'en fait c'est la même chose. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron, vous vous souvenez, il y a quelques années. C'est exactement la même chose.
Vous ne me dites pas pourquoi Rima Hassan a fait une irruption dans cette campagne aussi efficace, aussi rapide, et d'où elle vient ?
Parce qu'elle est très douée. Elle a les mots qui font mal. Elle, comment dire, dans le grand sujet aujourd'hui de tous ces antimétosionismes, ces antisémites, disons, ou ces antisionistes, c'est de nazifier Israël. C'est-à-dire Israël SS, comme on disait, vous vous souvenez, en mai 68, ça n'a pas beaucoup marché d'ailleurs, c'est RSSS. Bon, ben là, c'est ça, c'est Israël SS. Et au fond... Si vous voulez, moi je veux revenir dans les arrière-pensées, parce que l'antisionisme, c'est quoi ? Il est très, très bien résumé par le faquin qui a insulté Alain Finkielkraut le 18 février 2019, en marge d'une manifestation des Gilets jaunes. Vous vous souvenez, c'était boulevard Montparnasse. Qu'est-ce qu'il lui a dit ? La France, elle est à nous. Dieu va te punir. Hein, j'ai écouté la bande. Barre-toi, sale sioniste de merde, retourne à Tel Aviv. Et là, c'est le problème de l'antisionisme. Qu'est-ce qu'on va faire d'Alain Finkielkraut, donc, quand il sera à Tel Aviv ? Puisque c'est là que l'envoyé s'est abruti. Qu'est-ce qu'on va faire de lui, hein ? Puisque l'État d'Israël, il doit disparaître. C'est ça l'idée, bien sûr. Puisqu'il doit disparaître, puisqu'il faut tout mettre en œuvre, faut faire la Palestine de la mer au Jourdain. Donc il n'y a plus d'Israël. Mais qu'est-ce qui va lui arriver, dites-moi, David, dites-moi, qu'est-ce qui va lui arriver à Finky ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? Hein ? J'aime mieux ne pas le savoir, d'ailleurs, visiblement, vous non plus. Et c'est là, d'ailleurs, le point fort de Rima Hassan, parce qu'elle joue là-dessus en permanence, sans jamais... Enfin, on ne peut pas dire qu'elle ait fait encore une grosse boulette. C'est un jeu très subtil, mais de son point de vue, du point de vue de LFI, moi je dirais qu'elle fait du... Oui, elle fait du bon travail.
Avec un parcours, entre guillemets, exemplaire, née dans un camp de réfugiés, elle a créé un observatoire des réfugiés dans le monde.
C'est un peu trop beau pour être vrai.
Dont on se demande d'ailleurs si ce n'est pas une coquille vide.
Oui, c'est trop beau pour être vrai, tout ça.
Mais c'est ça qui est assez miraculeux pour elle, la France insoumise, c'est qu'elle...
Elle coche toutes les cases.
Un diamant noir.
Franco-syrienne, née en Syrie de parents syriens... elle a son passeport de réfugiée palestinienne qui vit en Syrie, et elle a son passeport français, enfin, vous voyez, bon, et puis...
Je vous ai laissé du temps, j'ai laissé filer la pendule, Franz, vous avez pris 2 minutes, ça fait 16 minutes qu'on parle ensemble.
Oh oui, oh, monsieur dommage, j'ai encore tellement de choses à dire. Ah non, puis alors, et Marseille quand même.
Marseille, viva, et voilà, quoi. Viva Marseille, et peut-être s'il gagne ce soir au Vélodrome, l'Olympique de Marseille contre l'Atalanta de Bergame, alors là, ce sera Marseille capitale de la France.
C'est ça, enfin, Emmanuel Macron a eu une très très bonne idée en faisant donner le coup d'envoi des Jeux Olympiques à Marseille. Vous avez eu le succès d'hier, c'est juste incroyable et c'est un démarrage formidable. Et puis,
merci Macron,
je crois qu'il faut dire merci Macron là-dessus. Et puis, merci aussi aux Marseillais, dont la devise est, moi j'adore cette devise, c'est pour ça qu'on peut parler de Marseille, qu'on aime Marseille. Moi j'aime aussi beaucoup les Marseillais. Et vous connaissez leur devise, j'ai écrit ça dans un bouquin il y a quelques années, j'en suis très fier parce que je trouve que ça résume bien.
C'est terminé.
Tout est grave, mais rien n'est important.
Bruxelles.
On se quitte avec Dick Hanegaard, c'est son anniversaire aujourd'hui, et puisque c'est la journée de l'Europe, lui, il chante Bruxelles. France, à très vite.
Ça sonne comme Marseille.
Que son amour aigri, et puis elle me soupçonne d'être avec toi le soir. Je reconnais, c'est vrai, tous les soirs dans ma tête, c'est la fête des anciens combattants d'une guerre qui est tout.